À quoi comparons-nous le royaume de Dieu numéro 16 les talents? L'histoire lire Matthieu 25, 14 à 30. Dans ce récit, le centre d'intérêt se situe dans la scène des contes et plus particulièrement dans la condamnation du troisième serviteur. C'est sur le comportement de celui-ci que les auditeurs de la parabole doivent prononcer un jugement. Arrêtons-nous donc sur les détails de l'histoire qui nous aideront à mieux juger de sa culpabilité, qui ne paraît pas d'abord très grave. 1. La remise des talents. La première chose qui nous frappe ici, c'est l'importance des sommes confiées aux serviteurs. Le talent valait 6000 deniers, c'est-à-dire le salaire qu'on payait à un bon ouvrier pour 6000 journées, environ 20 ans, de travail. Même un seul talent constituait donc déjà une assez grosse somme. Mais ce qui est surtout à remarquer dans la distribution de l'argent du maître, c'est que chaque serviteur reçoit la somme qui correspond exactement à sa capacité de la bien gérer. Aucun des serviteurs ne se voit chargé d'une responsabilité supérieure ou inférieure à ses aptitudes. 2. L'activité des deux bons serviteurs. Leur diligence est indiquée par trois mots, aussitôt, faire valoir, littéralement les serviteurs fidèles ont travaillé avec les talents reçus, et gagné. 3. L'enfouissement du talent. Selon la loi rabbinique, celui qui enterrait un dépôt immédiatement après l'avoir reçu était dégagé de toute responsabilité en cas de perte. Il semble que le troisième serviteur, en cachant le talent, cherche moins à protéger les biens de son maître qu'à se libérer lui-même des soucis et des devoirs qu'entraîne la confiance qui lui a été accordée. Il n'est pas motivé par la prudence mais par le refus de prendre ses responsabilités. 4. La durée de l'absence du maître. Le récit note que le maître revient longtemps après, sans d'autres précisions. L'important, c'est que la durée de la gestion est assez longue pour permettre aux deux bons serviteurs de doubler leur part de la fortune. 5. La mauvaise excuse du troisième serviteur. Pour justifier son acte, le dernier serviteur invoque sa peur devant la dureté du maître, qui compte toujours retirer un profit du travail fait par d'autres. Mais cette excuse n'est pas valable, car elle montre que ce serviteur savait qu'il était tenu de faire fructifier l'argent qui lui avait été confié. Même s'il avait vraiment eu peur, il aurait dû au moins accomplir ce minimum de placer le talent chez les banquiers et le laisser travailler tout seul. 6. La faute du mauvais serviteur. Le serviteur n'est pas blâmé pour sa peur ni pour un excès de prudence, mais pour sa paresse, serviteur mauvais et paresseux. C'est le travail qui a fait défaut. L'homme est resté totalement inactif et n'a pas fait la moindre chose pour les affaires de son maître. Au contraire, il n'a cherché qu'à esquiver son devoir tout en essayant de se protéger d'un châtiment éventuel. Voici donc le jugement que la parabole nous appelle à formuler contre le serviteur paresseux, c'est un homme mauvais et bon à rien. Sa culpabilité est établie sans qu'il puisse alléguer des circonstances atténuantes, ni un manque de capacité ou de moyens, ni un manque de temps, ni la peur. S'il est puni, c'est qu'il n'a pas travaillé et qu'il a abusé de la confiance de son maître. Le contexte de cette parabole fait partie du grand discours prophétique prononcé par Jésus en présence de ses disciples 2 ou 3 jours avant sa mort. Elle se meut donc dans la perspective de l'avènement du Christ pour exécuter un jugement terrible contre Jérusalem et la nation juive incrédule. Nous avons vu, page 88, qu'à partir de Matthieu 24h42, l'instruction est dominée par le thème de la vigilance dont les apôtres devaient faire preuve dans l'attente de cet avènement. Dans une série de paraboles et d'illustrations, Jésus révèle quels sont les impératifs de cette vigilance et met ses disciples en garde contre une infidélité dont ils n'envisageaient peut-être pas sérieusement l'éventualité. La parabole des talents s'insère dans ce cycle et continue dans la même ligne que celle des deux paraboles précédentes, celle de l'intendant et celle des 10 vierges. L'application originelle: comment ces premiers auditeurs devaient-ils comprendre cette parabole par rapport à leur propre situation? Sans aller jusqu'à leur donner une signification allégorique, on peut relever certains éléments de l'histoire qui seront utiles pour déterminer l'application que les apôtres devaient en faire. 1. La formule d'introduction. La parabole des talents est jointe à celle des 10 vierges par l'expression « car ». La préposition « gar » qui figure dans le texte grec n'est pas traduite dans la version seconde, il en sera comme d'un. Les deux paraboles sont liées si étroitement qu'il n'était pas nécessaire de répéter « le royaume des cieux sera alors semblable à ». Jésus a donc toujours en vue la manifestation puissante de son règne que seraient les événements de 66 à 70. 2. Les serviteurs. Jésus se sert ici de l'image d'esclave à qui a été confiée une gestion importante. Puisque c'est aux apôtres qu'est adressée la parabole, il semble que ce soit eux qui sont visés. En effet, Dieu leur a remis un dépôt de suprême importance, ils ont la direction spirituelle de l'Église, Matthieu 24h45, ils connaissent la volonté de Dieu, Luc midi 47-48, et ils ont en main les clés du royaume, Matthieu 16h19. 18h18. Comme les serviteurs du récit, Les apôtres sont tenus à travailler et à faire fructifier le dépôt qu'ils avaient reçu. Jean 15h16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. » 3. Les talents. On ne devrait peut-être pas chercher à donner une signification symbolique trop précise aux talents. Ils ne représentent sans doute pas, comme on le croit trop souvent, les dons, les talents, une simple coïncidence linguistique, les capacités que chaque chrétien a reçues en partage. Car dans la parabole, les talents sont distribués, non pas comme des capacités, mais selon la capacité de chaque serviteur. Il faut penser plutôt à une tâche à accomplir, une tâche dont l'importance est évoquée par les sommes énormes dont disposent les serviteurs. Le contexte, Matthieu 24h45-45-40, nous montre, en effet, qu'il s'agit des responsabilités pastorales que les apôtres avaient envers leurs frères, qu'ils devaient nourrir spirituellement, aimer et secourir. 4. Le règlement des comptes. Voici le nœud de la parabole. L'avènement du Christ pour châtier les Juifs incrédules comporterait aussi un jugement porté sur la fidélité avec laquelle les apôtres avaient assumé leurs responsabilités particulières. Qu'avaient-ils fait de la confiance de Dieu ? Avaient-ils exercé diligemment leur charge ou bien avaient-ils été paresseux comme le troisième serviteur ? Il ne fallait pas qu'ils demeurent inactifs pendant le temps qui précédait la venue du Christ contre Jérusalem, car lors de cette venue, Jésus leur demanderait des comptes. C'est ainsi que les apôtres ont dû comprendre la parabole. Cette interprétation est confirmée par la parabole des mines, Luc 19h11-27, qui, bien que prononcée à un autre moment, a le même thème que celle des talents. Dans cette histoire, un homme de haute naissance part dans un pays lointain pour être investi de la dignité royale. Revenant en roi, il demande tout d'abord des comptes à ses serviteurs pour savoir comment ils ont fait travailler l'argent qu'il leur avait remis. Ce n'est qu'ensuite qu'il se tourne vers les sujets rebelles, qui ne le voulaient pas comme roi, et qu'il les fait égorger. La parabole de Luc nous donne ainsi un tableau plus complet que celle de Matthieu. Après être monté au ciel pour être intronisé comme roi et messie, Actes 2h36, Jésus devait revenir dans sa puissance royale pour juger la génération de ses concitoyens juifs qu'il avait rejetés. Mais il mettrait d'abord de l'ordre dans sa propre maison, selon le principe énoncé dans 1 Pierre 4h17, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? Le jugement prédit contre Jérusalem et les adversaires du Messie concernait aussi les apôtres. 5. Les rétributions. L'exhortation à une activité diligente est doublement motivée par la promesse d'une grande récompense et la menace d'un terrible châtiment. Ces deux traitements sont indiqués au verset 29, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, c'est-à-dire l'apôtre qui aura été fidèle dans l'accomplissement de son ministère recevra l'approbation de Dieu et connaîtra la joie de voir confirmer sa place dans le royaume, mais à celui qui ne l'a pas, on notera même ce qu'il a, c'est-à-dire l'apôtre négligent ou paresseux se verra privé de sa position apostolique. Mais son véritable châtiment sera même plus sévère, il sera jeté dans les ténèbres du dehors, référence, comme nous l'avons vu à maintes reprises, à l'exclusion du royaume. Son angoisse fera ainsi contraste avec la joie de ses compagnons de service et avec leur participation, encore plus profonde, au bienfait messianique. Le sens de la parabole des talents découle donc directement de son contexte historique et s'applique à la situation concrète des apôtres. Elle prévient ceux-ci que, lors de l'avènement du Christ contre le judaïsme incrédule, ils devront rendre compte du ministère élevé qu'on leur a confié. Elle confirme aussi que la vigilance qu'ils doivent pratiquer en prévision de cet avènement est surtout une activité fidèle et responsable. On peut maintenant disposer la leçon de la parabole selon les deux termes d'une comparaison, de même qu'un maître, lors de son retour d'un voyage, demande à ses serviteurs de rendre compte de la manière dont ils ont fait valoir l'argent qu'il leur avait confié, de même le Christ, lors de son avènement contre l'Israël incrédule, tiendrait compte de la manière dont les apôtres avaient accompli les devoirs de leur ministère apostolique. Leçon secondaire 1. Dans la distribution du travail, le maître a eu égard à ce que les différents serviteurs étaient capables de faire. De même, Dieu n'exige de nous que des tâches qui sont en rapport avec nos capacités. 2. Nous aurons tous à rendre compte de la manière dont nous avons exercé nos capacités pour le Seigneur. Chacun sera alors jugé selon ses efforts, la paresse sera sévèrement punie, la fidélité richement récompensée. 3. Celui qui néglige les responsabilités que Dieu lui a confiées finira par les perdre et se perdre lui-même. 4. La formule suivante nous aidera à déterminer quel est notre devoir dans le service de Dieu, capacité pour le service plus occasion de servir égale à responsabilité.